la BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour ce grand entretien de Daniel Schneiderman, qui sera mené par Ziane Mahalouf, qui est journaliste. Je voulais vous dire que la bibliothèque vous propose gratuitement des ouvrages en fait, de Daniel Schneiderman ou sur les médias, et également un accès à son site web Arrêt sur image. Voilà. Et je voulais également vous dire que cette soirée est enregistrée et donc elle sera rediffusée dans quelques semaines sur le site web de la BPI. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Et juste avant ça, quand même, une parution de Daniel Schneiderman d'ici quelques jours sur la presse internationale face au nazisme, dont il nous dira peut-être quelques mots. Voilà. Bon grand entretien.
Merci. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Mon nom est Ziad Mahalouf. Pour ceux qui le savent, je m'occupe depuis quelques années d'une émission sur les médias, et c'est donc avec une très grande excitation que j'ai accepté de dialoguer avec un des pères de ma discipline, et je pense que on peut vraiment le dire, c'est en regardant les émissions de Daniel que, non pas que j'ai choisi de devenir journaliste, ni que j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui, mais en tout cas que j'ai appris qu'on pouvait décortiquer, mieux comprendre l'univers médiatique, et je pense que ça a été des leçons pour tout le monde, on va y revenir. J'étais aussi étonné parce que le titre du cycle, c'est « Reportage, état des lieux ». Et jusqu'à maintenant, les personnes que j'avais vues passer, les noms que j'avais vus passer, j'ai animé un autre entretien de ce cycle, étaient des personnes connues pour être des reporters ou grands reporters au sens que j'entendais moi ou qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire des personnes qui sont connues pour se déplacer dans d'autres pays ou sur d'autres terrains pour couvrir ce qui se passe. Et du coup, je me suis dit, en même temps, bon, ça peut être intéressant de parler reportage avec Daniel. Et en plus, il y a une forme d'imprécision dans le vocabulaire journalistique qui fait que tout est un peu reportage, tout est un peu correspondance, tout est un peu chronique. Voilà. Et en même temps, en préparant, j'ai découvert ce qui ne m'a pas étonné, que comme beaucoup de journalistes de sa génération, Daniel a été un reporter et même un grand reporter du monde. Je l'ai découvert ou redécouvert. Et j'ai même redécouvert des textes. Et avec la BPI, on a cherché le premier texte conservé dans les archives du Monde. Je ne sais pas si c'est son premier reportage, parce que j'ai également découvert à cette occasion que les archives du Monde étaient vraiment pas très bien conservées, qu'il y avait beaucoup de choses, on ne savait pas ce que c'était, qu'il n'y avait pas de contexte, et qu'il y avait beaucoup de choses qui ont disparu, en tout cas pour l'instant. J'ai découvert un texte qui s'appelle « Les derniers gâteaux » et je me suis dit que ça serait bien de lire un passage de ce texte parce que c'est une très belle introduction au reportage et au style journalistique et puis peut-être aussi au journalisme des années 70 parce que ce texte date du 30 juillet 1979. À l'époque, Daniel Schneiderman est un tout jeune homme puisque tu avais quel âge ?
21 ans.
21 ans, donc vraiment à peine sorti du lycée, enfin, j'imagine que tu avais dû... Parce que tu avais quand même fait une école de journalisme ou tu étais en train de la faire donc...
J'étais en train.
Tu étais en train de la faire. Donc je lis le texte, que je suis désolé si je lis mal, ou sauf si tu préfères le lire.
Non.
Donc ça s'appelle « Les derniers gâteaux ». Rue Mira, à deux pas de Barbès, je crois que c'est là que tu habitais, non ?
Ouais.
L'inscription géante dévore les vitrines de la pâtisserie tunisienne. On solde les gâteaux 1,50 €. Tout à 1,50 €. Par l'aubaine alléchée, les voisins, depuis le matin, assiègent le petit comptoir, raflent par cartons entiers les dernières sucreries et les ultimes litres d'orgeat, entre parenthèses, une merveille, et s'en reviennent encore, succombant sous les victuailles et le remords. Le maître des lieux, les traits tirés, préside à l'alali avec une exaltation déchirée. L'alali, pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la mise à mort. C'est ça, en gros ?
Au cours de la chasse à cour, oui.
Voilà. Le maître des lieux, les traits tirés, préside à l'alali avec une exaltation déchirée, mitraille de Orion, les clients et ses petits-fils, dégoulinant de besogne. Orion, c'est des tapes dans le dos. Bafouille pour la millième fois l'incroyable histoire. Comme un charme, je me portais, et du jour au lendemain, ces médecins qui m'ordonnent d'arrêter. Tenant du bout des doigts un rat loukoum qu'elle grignote entre deux hoquets, les grandes douleurs de la rue Mira sont tout sauf muettes, les vieilles habituées, réfugiées dans un coin, en perdent leur hébreu. Maintenant, pour trouver de la bonne marchandise cachère, il faudra aller à Belleville. À Belleville, vous vous rendez compte ? J'arrête là, mais tout le texte est comme ça. Donc j'ai trouvé le texte très beau, très, très mignon, enfin, très vivant, extrêmement bien écrit. Peut-être pas vraiment à l'image de ce qu'on retrouve dans la presse aujourd'hui. En tout cas, il n'y aurait pas eu des termes comme Alali et Orion facilement.
Ah oui, j'écrivais pompeux à l'époque. Hein.
Pompeux, mais en même temps avec style et tout. Enfin, avec, voilà,
j'écrivais, c'était un style soutenu, on va dire. Beaucoup plus soutenu qu'aujourd'hui. J'écris beaucoup moins soutenu aujourd'hui.
Mais je crois que c'est le cas de tout le monde, en fait. Peut-être. Quand on lit la presse des années 40, on est même la presse d'affaires judiciaires, etc.
Un peu après les années 40, là.
Ouais, mais bon, en tout cas, ça a évolué dans un sens d'accessibilité. Est-ce que c'est ton premier reportage ou pas? Ou est-ce que c'est juste
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un reportage. C'était vraiment en bas de chez moi, quoi. Mais puisque j'habitais, en effet, à Château-Rouge, pour ceux qui connaissent... Donc la rue Mira, c'était vraiment en bas de chez moi. Je ne sais pas si on peut parler de reportage, mais j'ai toujours pensé que en fait, je veux dire, pour faire du grand reportage, on n'était pas du tout obligé d'aller loin, quoi, et que très souvent vous descendiez de chez vous, vous tournez deux rues et pour peu que vous vous attardiez un peu. Que vous posiez quelque part, que vous laissiez les gens venir à vous et les histoires venir à vous. Je veux dire, la vie est fourmille de sujets passionnants de reportage. Il n'y a pas un seul endroit où je sois passé et où j'ai pas découvert ça. Alors un peu après ça. Alors ça, c'était ce petit billet là. C'était ce genre de petites choses que j'envoyais par la poste au Monde.
D'accord.
Alors il faut dire. Mais vous avez remarquablement travaillé, hein, pas de souci. C'est pas le premier texte de moi qui a publié Le Monde. Le premier texte de ma plume qui a publié Le Monde, c'était une lettre de douleur après la mort de. Alors, celui qui personnellement a été mon modèle en journalisme, c'était un journaliste qui s'appelait Pierre Viançon-Ponté. Très grand journaliste de l'après-guerre, de la quatrième et de la quatrième et de la cinquième République. Il était un peu passé un peu partout, notamment à l'Express. Et ensuite, il avait abouti au Monde. Il était devenu un des plus grands journalistes politiques sous le gaullisme et le pompidolisme. C'est un des plus grands journalistes politiques. Accès direct à De Gaulle, accès direct à Pompidou. Enfin voilà, vraiment... le summum du summum.
Et c'est devenu un chroniqueur du week-end, je crois, au Monde.
Voilà.
Hein, comme...
Et à un moment, il s'est trouvé un peu placardisé et on lui a proposé de s'occuper d'un supplément société du week-end au Monde. Ça s'appelait Le Monde aujourd'hui. Et alors ce type qui passait sa vie à déjeuner avec des ministres et qui pouvait voir directement les présidents quand il voulait, tout d'un coup s'est penché sur... les petites choses de la vie, les petites choses de la rue, les scènes de métro, les scènes de bus.
J'ai retrouvé un texte de lui, je ne sais pas si j'ose le lire parce que je lis vraiment très mal, mais est-ce que ça vous intéresse que je vous lise quelques lignes d'un texte qu'il avait écrit? Alors, j'ai cherché un texte de lui qui parle de la presse, je me suis dit ça serait logique, et il a écrit je crois même que tu en parles de ce texte, il a écrit un texte sur les petites annonces de Libération.
Absolument. Ouais, ouais. Et en plus, il parlait d'un concurrent.
Ouais, il parlait d'un concurrent parce qu'il travaillait au Monde. Donc voilà ce qu'il écrit. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'à l'époque, les chroniques étaient vraiment très, très longues. Je vais vous lire juste le début. 4 pages d'un journal, 4 pages d'un quotidien, sans une ligne de ce qu'on nomme l'information, sans un mot de jugement ni de commentaire. Pourtant, aucune lecture n'est plus instructive, plus éclairante que celle de ces 4 pages de petites annonces gratuites publiées chaque samedi par Libération. Dans tout le reste du numéro, comme chaque jour, ce sont les journalistes qui s'expriment. Grandes et petites nouvelles du Monde et de la France, sélectionnées et traitées de façon à bien mettre en lumière, par l'ironie, la dérision, le baroque ou la colère, toutes les absurdités, les horreurs, les contradictions, les injustices, les abus. Alors encore une fois, un texte extrêmement bien écrit. Hélas, il n'y a que l'embarras du choix. Et puis soudain, dans ces 4 pages, spéciales petites annonces du samedi, s'élève la voix des lecteurs. Ils sont généralement jeunes, parfois adolescents. Ils s'appellent, s'interrogent, se convoquent les uns les autres, parlent de leurs soucis, de leurs besoins, de leurs espoirs. Écoutons-les. Solitude, c'est le mot-clé, le leitmotiv de la moitié au moins des quelques 200 petites annonces que contenait l'un des derniers numéros du samedi, etc., etc.
Voilà, non, c'est un très beau texte de lui et qui m'avait vraiment frappé parce que c'est dans la foulée de ce que je disais. Ce type qui était un grand notable du journalisme politique, tout d'un coup se penche sur des objets partout ailleurs qu'à Libé, n'étaient pas considérés à l'époque comme des objets dignes de journalisme. Enfin, voilà. Les petites annonces de Libé, d'ailleurs, il ne le dit pas comme ça, mais les petites annonces de Libé à l'époque, c'était vraiment un truc révolutionnaire puisque c'était gratuit. Et c'était du style, je t'ai vu dans le bus 92 entre l'arrêt machin et l'arrêt bidule, j'ai trop flashé sur toi, j'ai pas osé t'aborder. Si tu lis, voilà, c'était ça.
Il y avait aussi les petites annonces de Libé, c'était ça. D'annonces de Tollard, donc
qui
cherchait des correspondantes épistolaires ou des correspondants épistolaires.
Alors, je termine juste mon histoire. Ouais. Donc, Vianson, mon modèle, etc. Et donc, dans ce supplément du samedi, là, il avait ouvert ses pages à des articles qu'il recevait par la poste, qui étaient des articles écrit vraiment par monsieur et madame tout le monde qui avait une histoire à raconter. Si elle était intéressante et si elle était bien racontée, c'était publié. Et donc, évidemment, j'avais tenté ma chance et j'avais envoyé 3, 4, 5 fois des articles par la poste à Vianson-Pontet qui, à chaque fois, me retoquaient mes articles en expliquant que ça n'allait pas, mais me répondait quand même des lettres circonstanciées en m'expliquant bien, en prenant le temps de m'expliquer ce qui clochait, ce que j'aurais dû préciser, faire mieux, etc. J'avais été évidemment tout à fait fasciné par la disponibilité, la générosité. Et il est mort d'un cancer en 79. Évidemment, ça m'a beaucoup affecté parce que c'était très soudain. Le samedi précédent encore, il avait écrit sa chronique du Monde. Et tout d'un coup,
le jour de l'annonce de sa mort, ils ont publié un texte de sa plume. Le jour de l'annonce de sa mort.
Non. Il était paru quelques jours plus tôt.
D'accord. Ce que j'ai lu, mais...
Et donc là, sous le coup du chagrin, j'ai rédigé une lettre fleuve au journal, baignée de mes larmes. Et j'ai eu la surprise de voir qu'un extrait de cette lettre avait été publié dans Le Monde. Et le premier texte signé de mon nom qui a été publié dans Le Monde, c'était ça. C'était un petit bout de texte exprimant ma douleur. Alors je me suis dit, bon, s'ils publient une lettre de condoléances, ils peuvent bien publier des articles. Donc j'ai insisté. Et le successeur de Vianson-Pontet, qui s'appelait Jean Planchet, a donc commencé à publier des petites choses comme ce que tu viens de lire, Ziad.
Je comprends mieux, puisque c'est vrai qu'on se demande en lisant ce texte dans quel cadre il a pu être publié.
Bah dans ce cadre-là, dans ce cadre-là. Et, bah en fait, c'était du Internet avant la lettre, quoi. C'est-à-dire, c'était avant la lettre. Internet, l'avantage que ça a eu, c'est que ça a ouvert la possibilité de communication de masse à tout un chacun, pourvu qu'il ait quelque chose d'intéressant à dire. Et ça a été, et on en parlera peut-être tout à l'heure, ça a été un truc absolument énorme. Ce que faisait Vianson, c'était du Internet avant Internet. C'est-à-dire, c'était le court-circuitage des circuits traditionnels de fabrication de l'info qui passent par une hiérarchie des rédactions en chef, des formes d'écriture canoniques, on va dire.
On va revenir en arrière, ou en tout cas essayer de comprendre, avec une question un peu rituelle. Donc on comprend, à 21 ans, tu commences à publier des textes dans le journal que tu lisais manifestement et qui t'intéressait. Donc c'était déjà un premier succès. Mais qu'est-ce qui fait, je ne sais pas si tu te souviens ou si tu es habitué à expliquer ça, mais qu'est-ce qui fait que tu avais envie de faire ça? Qu'est-ce qui fait que tu avais envie de faire du journalisme? Ou quelle vision même peut-être tu avais du journalisme à l'époque? Est-ce que c'était les chroniques? Est-ce que c'était...
J'avais pas énormément de vision, je dois dire. Alors, c'est drôle parce que... quand j'ai relu le petit bout de texte d'éloge funèbre de Vianson-Pontet...
Il est là, hein, mais bon, je ne l'ai pas tout... Ben oui, c'est ça. Voilà, mais je n'avais pas compris ce que c'était, c'est pour ça que je ne l'ai pas...
Ah, c'est vrai?
Ouais, mais ce n'est pas très clair.
C'est pas très clair. Bah, disons, alors.
Non, il y a marqué. Non, le texte est très clair, mais c'est pas clair, en fait, dans quel contexte ça a été publié. C'est très court.
C'est peut-être pas très clair, d'ailleurs.
Si,
à l'époque, j'étais encore à l'école. Hein, donc, j'étais encore en apprentissage. Alors, ce que j'avais écrit, c'est ça. Même si depuis des cohortes se sont ruées sur ses traces, il a sans doute été le premier à comprendre que la vraie vie était ailleurs que dans les institutions, que le sort quotidien et ultime de notre société se jouait surtout dans l'invisible et l'anodin. Et moi, le mot important là-dedans, si tu me demandes pourquoi j'ai voulu faire du journalisme, c'est peut-être invisible. Je trouve que finalement, si je dois chercher un fil directeur dans tout ça, ce qui m'a excité tout au long de cette vie de journaliste, c'est d'essayer de passer derrière les apparences et aussi peut-être de me pencher sur ce qui est peut-être c'est la lettre volée d'Edgar Poe, quoi, ce qui est peut-être posé en évidence à la vue de tous et qui reste invisible. Je pense que ce qui me fascine, moi, beaucoup plus que ce qu'on appelle traditionnellement l'investigation, qui consiste à aller creuser des choses qui sont cachées et à les découvrir, ce qui me fascine personnellement, c'est les choses qui sont vraiment posées à la vue de tout le monde, que tout le monde a la capacité de voir, et que finalement, peut-être pour cette raison, personne ne regarde vraiment, et qui donc
un peu les ficelles, en fait,
restent invisibles. Je ne sais pas.
On voit un tableau, et toi, ce qui t'intéresse, c'est que tout le monde le voit, et que comment on a fait ce tableau, que dit ce tableau, pourquoi, etc.
Ben, ça, c'est la base de ma pulsion de chroniqueur télé. Mmh. La base de ma pulsion de chroniqueur télé, c'est de prendre un spectacle qui est vraiment vu par tout le monde. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire de la chronique télé, j'allais vraiment, de préférence, regarder les chaînes de très grande audience, TF1, France 2. C'est-à-dire vraiment les trucs que tout le monde voit. Et le défi, c'était d'essayer de deviner ce qu'il pouvait y avoir derrière, dans quelles conditions ça avait été fabriqué, avec quelle pression des uns, des autres, qui avait vraiment signé cette espèce d'œuvre collective que personne ne signait. Est-ce que c'était le journaliste qui la présentait? Est-ce que c'était son rédacteur en chef? Est-ce que c'était le chef de la régie publicitaire qui avait imposé des conditions de fabrication du programme? Est-ce que c'était le pouvoir politique qui avait nommé le PDG de la chaîne? Et est-ce que finalement ce qu'on voyait était une résultante d'une longue chaîne de fabrication complexe ou pas? Ou est-ce que c'était un incident finalement qui échappait à la mécanique de cette longue chaîne de fabrication? Voilà. Ce qui est souvent le plus frappant, c'est que nous avons sous les yeux des évidences et qu'on ne sait pas les voir, ou on s'arrange pour ne pas les voir d'ailleurs, ou on tente de les oublier. Je veux dire, si on prend un exemple vraiment aujourd'hui, qui est la catastrophe climatique dans laquelle, je ne dis pas qui nous attend, mais dans laquelle nous sommes déjà entrés de plein pied, on est déjà en plein dedans. On ne peut pas dire qu'on manque d'informations sur la catastrophe climatique, on croule sous les informations sur la catastrophe climatique, mais on fait tout pour ne pas les voir, on fait tout pour ne pas entendre, on fait tout pour regarder à côté. Donc finalement, ce sont ces mécanismes de déni, je dirais, qui me... Voilà. Mais on est très loin quand même de Viançon. C'est vrai qu'on n'est on est pas...
On va revenir un peu dans... Donc en 92, tu as commencé à faire des chroniques médias, mais c'était après quand même 14 ans ou 13 ans de carrière au Monde. Carrière qui a été celle d'un reporter, je crois. En 1983, tu as été nommé grand reporter. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on avait plus...
Ça veut dire que tu étais plus payé.
Voilà, c'est ça. J'ai regardé, du coup, dans toutes les archives, les destinations. Tu as beaucoup travaillé en France, vraiment beaucoup. Un peu en Europe. J'ai noté la Belgique, la Hollande, la Suède. En France... dans les colonies, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, si c'est politiquement correct.
Non, déjà à
correct,
l'époque, ça ne s'appelait plus comme ça.
Je sais, mais je crois que c'est un terme que tu utilisais quand même. Donc la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'impression que c'était vraiment un gros morceau.
Ouais, la Nouvelle-Calédonie, ça a vraiment été fondateur pour plusieurs raisons, parce que c'est la, je veux dire, donc c'était en 84 pour les toutes premières émeutes. Kanak qui ont éclaté à ce moment-là, donc j'ai été balancé là-dedans. J'étais embauché au Monde depuis un an, et là vraiment vous retrouvez dans un conflit colonial, au cœur d'un conflit colonial. Alors un conflit colonial beaucoup moins sanglant que l'Algérie ou l'Indochine, et qui a fait au total beaucoup moins de morts, heureusement, mais enfin avec quand même toutes les caractéristiques d'un conflit colonial. Et vous trouvez balancé là-dedans. Donc, alors j'y suis. À mon premier voyage, j'y suis resté très longtemps. J'y suis resté 2 mois parce que au début, Enfin, bah, parce que moi, je voulais vraiment rester. J'avais vraiment envie de voir comment l'histoire allait tourner. Puis le monde, au début, a essayé de me relayer un peu en me disant « Mais t'es sûr que tu veux pas rentrer ?» Parce que, tu sais, on reste jamais plus de 3 semaines, quand même. Je disais « Non, non, moi, ça va. » Et comme le billet d'avion coûtait très cher, puisque c'est exactement à l'autre bout, en fait, la Nouvelle-Calédonie, je pense que ils s'en sont accommodés. Et après, je suis devenu une espèce de spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, comme ça, pendant 2-3 ans. J'y suis retourné à chaque fois qu'il y avait une échéance.
De la région, puisque tu es allé en Nouvelle-Zélande aussi.
Alors, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Alors, en fait, ça, c'est autre chose. J'étais en Calédonie pour couvrir des élections. Et là-dessus, mon excellent ami Plenel sort donc le scoop du Rainbow Warrior. Et donc
Plenel, qui travaillait aussi au Monde,
on était au Monde, tous les deux.
Qui ne dirigeait pas encore, mais qui l'a dirigé plus tard, la rédaction plus tard, qui a sorti le scoop sur donc, le Rainbow Warrior, pour les plus jeunes d'entre nous.
C'est un attentat perpétré contre un bateau de Greenpeace par ce qu'on a découvert plus tard être les services secrets français. Dans un port néo-zélandais à Auckland.
Un attentat
qui a fait un mort, un photographe portugais qui se trouvait sur le pont. Et donc Le Monde, moi je suis à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Le Monde sort le scoop extraordinaire de dire que le Rainbow Warrior a été coulé par des militaires français. Donc que me dit la rédaction en chef ? Écoute, tu y es, tu files en Nouvelle-Zélande et tu vas faire les réactions politiques en Nouvelle-Zélande. Et du coup, ce coup-là, j'ai laissé tomber la Nouvelle-Calédonie pour aller courir après les ministres néo-zélandais et les faire réagir à l'attentat commis par les services secrets français. Voilà, ce qui m'a donné l'occasion de découvrir la vie politique néo-zélandaise. Je pense que j'aurais sans doute pas eu l'occasion de la découvrir s'il n'y avait pas eu cette affaire-là.
Donc, si on revient sur ton parcours, les années 80, ça a été les années de reportage sur le terrain, les années de... c'est quand même l'essence du journalisme. Quels ont été les enseignements pour toi de ces années de travail sur le terrain, et puis le regard que tu portes dessus maintenant sur ce que ça t'a appris du métier? C'est
tout,
trop compliqué.
Tout. Puisque, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle du grand reportage, mais en même temps, tout ça a été au Monde confondu dans un service qu'on appelait le service des infos gênées, des informations générales. Donc, comme son nom l'indique, c'était un service dont la vocation était de parler de tout. Plus particulièrement de tout ce que les journalistes du Monde rubricards, spécialistes, ne souhaitaient pas traiter, soit parce que c'était trop fatigant, soit parce qu'il fallait aller trop loin, soit parce qu'il fallait se coucher tard, soit parce qu'il fallait passer des nuits. Donc
c'est là qu'on commençait quand on était souvent...
Non, parce que Le Monde embauchait beaucoup des spécialistes reconnus. Donc la force du journal, il faut bien le reconnaître, c'était la compétence de ces journalistes spécialistes. Le spécialiste de l'agriculture au Monde, le spécialiste de l'énergie, du pétrole, le spécialiste des transports, le spécialiste du RPR, c'était vraiment des autorités à l'époque dans le domaine qui couvre. Donc, dans cet océan de spécialistes, donc il y avait un petit service de 6 ou 7 GUS dont j'étais, qui avait vocation à parler de sujets dont ils n'avaient pas entendu parler 2 jours avant, en se faisant un dossier de presse qui lisait fiévreusement dans l'avion par-dessus le plateau repas, pour essayer de ne pas arriver trop pignard sur les sujets qu'ils couvraient. Et j'ai commencé là, donc la polyvalence, qui a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Je ne dis pas que c'est mieux. L'avantage de la polyvalence, c'est que vous arrivez, vous voyez des choses que peut-être le spécialiste ne voit plus parce que lui, il les couvre depuis 10 ans. Quoi. Donc ça, c'est un avantage. Le gros risque de la polyvalence, c'est de dire des conneries parce que vous n'êtes pas spécialiste du sujet, justement. Donc voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit à l'époque.
Et à partir de 1992, là, c'est finalement le Daniel Schneiderman que tout le monde connaît, qui commence avec une chronique média, c'est
avec
ça ?
Avec une chronique quotidienne sur la télé, oui.
Alors comment ça s'est passé, ça ?
Alors en fait, il y a une transition directe du reportage à la chronique télé. Je disais que j'étais plus ou moins considéré comme le spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Et un été, j'étais en vacances Et la rédaction en chef du journal m'appelle, me dit « Daniel, est-ce que tu as vu la télé ?»« Ben non, je suis en vacances, je n'ai pas vu la télé. » C'est terrible ce qui se passe à Nouméa. Il y a des émeutes. Les images sont absolument terribles. On a vu des CRS frapper des femmes noires qui manifestaient sur la place des Cocotiers à Nouméa. Ça a certainement très mal se passé. On est peut-être au bord d'une résurgence des soulèvements, des émeutes, etc. Tu prends le premier avion et tu files. Alors, quand votre rédaction en chef vous envoie, vous parle sur un ton aussi impérieux, si vous voulez, vous n'êtes pas en train de dire « je suis en vacances », vous prenez le premier avion et vous filez. Donc, je prends le premier avion, j'arrive à Nouméa quand même 2-3 jours plus tard, il y a quand même 24 heures de vol. Je me précipite évidemment sur la dite place des Cocotiers, que je trouve absolument paisible. Donc, je vais voir les gens, les commerçants, tout le monde, le kiosque à jus de fruits, enfin, qui étaient mes sources régulières quand j'étais à Nouméa.
Quel sens du mot source, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui se passe ? Et tout le monde me dit, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, mais les meutes, les manifs, la répression, les coups de matraque, les images qu'on a vues. Ah, ça ! Mais s'il y a eu une petite manif avec 17 personnes il y a 3 jours, il y a des flics qui ont donné 3 coups de matraque, les caméras évidemment étaient là pour filmer en gros plan, mais c'est fini depuis longtemps. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Quelle est la mécanique qui fait que une image en gros plan d'un flic qui matraque, légèrement une manifestante dans une manifestation ridicule et insignifiante, devient une image qui, diffusée aux 20h de TF1 et de France 2, va mettre le feu à la savane et va mettre le feu au milieu politique, à la presse, etc. C'est-à-dire, la fabrication. Qu'est-ce que c'est que cette mécanique de la fabrication d'images de télé ? Comment c'est fabriqué, les images de télé ? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'une image de télé devient. Qu'est-ce qui fait que telle scène, voilà, une petite manifestation qui occupe un 20e de la place des Cocotiers, devient un truc qui va foutre le feu à la France quand c'est projeté aux 20h. Et au fond, c'est à ce moment-là que je me dis, je vais essayer de réfléchir à. La manière dont les images de télé sont fabriquées et surtout la manière dont nous, spectateurs, pour le coup, on interagit avec les images de télé. Qu'est-ce qu'elles nous font ? Où est-ce qu'elles viennent nous chercher ? Comment elles nous chopent ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher en nous ? Je me suis dit, là, il y a un sujet vraiment de... Il y a un sujet d'exploration, quoi. Et c'est là où j'ai... C'est très peu de temps après, finalement... que j'ai dit au Monde, que j'ai dit au journal, moi j'aimerais bien regarder la télé, quoi. J'aimerais bien regarder la télé et continuer finalement, parce que je suis pas critique télé, je trouve que ça veut rien dire. L'idée c'était plutôt de continuer ce boulot de reportage, mais de le faire devant la télé, c'est-à-dire de me planter devant la télé et de raconter ce que j'avais vu.
Faire de la télé un terrain. De travail, terrain de recherche, de connaissances. Etc.
Et j'ajoute que même quand j'étais reporter, les reporters sur le terrain, il y a des tribus. Hein. Il y a les journalistes de presse écrite, il y a les journalistes de quotidien, il y a les journalistes d'hebdo, il y a les caméras, il y a les photographes. Tout ce monde-là, en général, ne se mélange pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes exigences ni les mêmes contraintes. Et moi, j'étais quand même... beaucoup plus souvent fourré avec les photographes qu'avec mes confrères de presse écrite, parce que j'avais envie de voir. Et les photographes, dans un terrain un peu chaud comme ça, comme une insurrection, des émeutes, fatalement, les photographes, ils sont en première ligne. Ouais. Hein, c'est eux qui prennent tous les risques, parce que s'ils n'ont pas l'image, ils sont venus pour rien. Et moi, j'avais cette forme particulière d'attrait qui faisait que j'avais beaucoup plus de potes photographes d'ailleurs que de potes journalistes de presse écrite quand j'étais sur ce genre de terrain.
Et on va donc là on a déjà bien avancé. En 95, cet intérêt pour les médias et la télévision est transformé en une émission qui est ce qui fait que à ce moment-là tu deviens vraiment très connu et tu deviens une référence de la critique média. J'ai préparé un extrait, si ça vous intéresse, ouais. Donc,
ils ne vont pas dire non, hein. Espèce de démagogue. Oui,
mais là, ils le disent.
C'est bien qu'ils ne vont pas dire non.
Non, non. Ils peuvent dire non, oui, de loin. Là, ils disent oui avec la tête et tout. Ils ont envie. Donc, c'est un extrait qui est tiré du site, on va en parler après, qui est en fait une émission qui est récente, mais qui est une émission de retour sur les 20 ans, parce que c'était les 20 ans, c'était en 2015.
Déjà, 20 ans Carré sur Image existe et tente semaine après semaine, jour après jour depuis la création du site internet,
on va regarder
de
5
s'arrêter
minutes.
Sur les images et de déconstruire les récits médiatiques.
Cela valait bien un numéro spécial, non pas pour s'entre-congratuler ou pour jeter un regard nostalgique sur 20 années de travail, mais plutôt pour faire un bilan réflexif, à défaut d'être exhaustif, et pour vous livrer peut-être les dessous de certains moments de la vie de l'émission que vous ignoriez.
Et donc, pour présenter cette émission, nous serons trois journalistes de la rédaction d'Arrêt sur Image, Justine Brabant, Anne-Sophie Jacques et moi-même, avec, dans le rôle de l'invité unique, Daniel Schneiderman.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, la règle du jeu est simple. Comme dans tout bon Arrêt sur Image, nous allons vous interroger, Daniel, sur des séquences, des extraits de l'émission diffusée depuis 1995, des séquences que vous avez choisies et des séquences aussi que nous avons sélectionnées.
Ouais, on peut appeler ça des séquences surprises que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette émission. Et d'ailleurs, j'ai commencé avec une première question. Daniel, parmi les séquences sur lesquelles vous avez eu envie de revenir, aucune ne date d'Arrêt sur Image version Internet. Elles datent toutes de Arrêt sur Image quand elle était diffusée sur la 5e, puis après sur France 5. Alors la question, est-ce que vous êtes nostalgique de la télé, même si vous n'osez pas l'avouer?
Est-ce qu'on est plus nul maintenant, c'est ça? Est-ce que l'équipe actuelle est plus nulle?
Non, c'était pas la question, Daniel, du tout. Non, la vraie question, c'est de savoir si, est-ce qu'il y a une vraie nostalgie de ce moment de télé où vous étiez diffusé et où vous passiez le dimanche à la télévision?
Non, il n'y a aucune nostalgie de ça, parce que je trouve que ce qu'on fait maintenant est aussi intéressant que ce qu'on faisait à l'époque. Il y a simplement le fait, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à mettre des extraits de la télé sur Internet. Enfin, ça s'est fait très vite, hein. Je me suis mis devant l'écran, je me suis dit, tiens, alors si je pensais aux 7-8 séquences dont j'ai envie de parler pour raconter les 20 ans, ce serait quoi? Auxquelles vont s'ajouter celles que vous avez choisies et que je ne connais pas. Et pourquoi la télé? Parce que les émissions sur Internet, nos abonnés peuvent encore y avoir accès facilement. Il leur suffit d'aller dans les archives, c'est simple. Et je pensais que ce serait sympa de revoir des extraits auxquels maintenant on n'a plus accès sur Internet, puisque l'émission Période France 5 n'est plus sur Internet.
D'accord. Alors justement, donc on a regardé donc les émissions télé et vous avez reçu en 20 ans énormément d'invités, alors des journalistes, des grands reporters, des directeurs de programme, des directeurs de chaîne, le président du CSA, des politiques, j'ai fait toute la liste, hein, écrivains, universitaires, philosophes, historiens, sociologues et aussi des animateurs de télévision. Et parmi les séquences que vous avez sélectionnées, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, moi en tant que jeune téléspectateur, hein, quand je vous regardais dans mon canapé en faisant des chips.
Vous étiez né ?
C'est vrai, oui, j'étais né, j'avais 16 ans. Et donc là, nous sommes le 25 novembre 1995, c'est avec Nagui. Donc Nagui est l'invité, le dossier de l'émission s'intéresse aux limites à ne pas dépasser à la télévision. Nagui donc avait des émissions de divertissement et vous allez pendant près d'une heure décortiquer hein, toutes les émissions de Nagui, hein, notamment il animait N'oubliez pas votre brosse à dents. Et donc pendant une heure, Nagui encaisse, il argumente et à la fin, tout à la fin d'émission, après avoir essuyé de nombreuses critiques, Nagui va faire une démonstration qui va littéralement scotcher tout le monde. On regarde.
Bonsoir, on peut rentrer madame ?
Oh la robe de chambre !
Est-ce que vous avez envie de jouer avec nous ?
Bien sûr !
C'est vrai ?
Oui, bien sûr !
Et vous êtes prête à tout ?
Bah oui !
Alors, je trouve votre robe de chambre
c'est vrai qu'elle est
très très belle.
Encore une fois, tout est un travail de montage et c'est pas à François Chaillet qui réalise cette émission que je vais l'apprendre, mais simplement quand je fais le clin d'œil sur la robe de chambre de notre candidate en disant « elle est très très belle votre robe de chambre », 5 secondes après, et vous le savez, je dis, je sais que ma maman regarde cette émission dans la même robe de chambre. Alors, ce qui est dit au début et ce qui est vous présenté comme étant, ah, oh, vous avez vu comme il se moque de la robe de chambre de la dame, pas du tout. Je trouve ça au contraire très sympa, je trouve ça très humain, je trouve ça très naturel. Et il n'y a qu'à voir la tenue dans laquelle vous êtes quand vous regardez votre émission ou l'émission ou la télé chez vous. Et si maintenant on ne travaille que sur l'image, encore une fois, là maintenant, je suis sûr que François Chaillet peut faire un plan large de ce plateau. C'est possible, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir un plan large, large, le plus large possible de tout le plateau, voire au moins, voilà. Et là, non, non, et là, on reste simplement dans cette image-là et on constate quoi? On constate qu'entre vous et moi, il y a une place vide et que si on fait un arrêt sur image et qu'on veut analyser la chose, on dit quoi? Vous avez vu le gouffre qu'il y a entre les deux? Daniel Schneiderman est-il raciste? A-t-il du mal à intégrer ou à s'approcher de Nagui alors que les trois sont en face? C'est un tribunal et c'est là où on peut se poser la vraie question. Donc ces sons-là, je sais bien, je me doute que vous ne l'êtes pas, je me doute que vous n'êtes pas un tribunal, je ne me sens absolument pas accusé, mais je dis simplement qu'à ce jeu d'arrêter cette image et faire des analyses, on peut le faire.
Vous êtes très fort.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Vous êtes très fort, c'est un hommage. Voilà. Merci beaucoup Nagui d'être venu.
Alors, quelle est la question là-dessus? Est-ce qu'il y a une question?
Déjà, je n'avais pas prévu ça, mais c'était intéressant de te voir regarder et je me suis dit... Est-ce qu'il regarde régulièrement ses anciennes émissions ou enfin, je veux
non,
dire,
heureusement, enfin, non, j'ai, beaucoup de vices, anciennes, j'ai beaucoup de vices, mais pas
mais est-ce que tu regardes enfin, celles que vous venez de tourner, par exemple, ou est-ce que tu
non.
Et même quand tu passais à la télé, tu regardais pas après?
Non.
Bah, ou si, pendant
quand,
que ça
si,
passait.
Ah bah si, quand je passais à la télé, j'étais obligé de regarder puisqu'on la montait.
D'accord.
Puisqu'on
pendant le montage.
On faisait du montage.
Et pendant
là, donc
les, la diffusion en direct, non.
Pendant le direct.
Pendant la diffusion, oui. Le dimanche, est-ce que tu regardais assis?
Oui. Ouais. Alors là, en famille, oui. Parce qu'il y avait voilà.
C'est une question que j'avais pas prévue, mais je me suis demandé. Alors, on va parler du contexte dans lequel c'est diffusé, du coup des équipes avec lesquelles tu travailles aujourd'hui. Mais ce qui a mené à donc les 20 ans d'arrêt sur image, c'est toute une série de péripéties, notamment l'arrêt de l'émission à la télévision. Ça, c'était en 2007. Mais avant, il y a aussi eu peut-être l'arrêt de ton travail au Monde. Ça, c'était en 2003. Et
enfin,
ça a été...
on peut dire, enfin, je veux dire, on peut dire que les deux fois, j'ai été viré.
Les deux fois, tu as été viré.
On a le droit de prononcer
et
le mot.
Et tu as été viré peut-être parce que tu as une grande gueule, on peut le dire.
Non,
mais aussi, mais aussi parce que ta position de journaliste média t'a mis toujours un peu en porte-à-faux avec tes collègues au sens large. C'est-à-dire la Nagui, qui est peut-être plus jamais revenue, les personnes qui travaillaient avec toi, les autres journalistes. Enfin, en gros... être journaliste média et être aussi visible, etc., ça, on ne se fait pas que des amis et ça a eu des conséquences sur ta carrière.
Bah, à l'époque, c'était quand même compliqué. Faut quand même reconnaître que quand l'émission est arrivée, donc a commencé sur France 5 en 1995, elle a été souvent qualifiée d'OVNI et de fait, c'était un OVNI. En 95, je veux dire, être sur une chaîne de télévision... Et reprendre des images de télévision, les arrêter et les commenter, les critiquer, les disséquer, leur arracher les pattes comme si c'était des mouches, c'était un truc qui juste ne s'était jamais fait, quoi. Et était ressenti par beaucoup de gens de la télévision comme un véritable sacrilège. Alors je sais qu'aujourd'hui, enfin je veux dire, vous ouvrez votre télé à l'heure des avancements. Pardon ? Aujourd'hui, voilà, vous ouvrez votre télé à l'heure des avant-soirées à 19h. Il n'y a que ça. Et on
la
a du mal.
Qui parle de la télévision.
Mais oui,
qui,
des, je veux dire,
avec beaucoup
que
de
soit Barthes, que soit C'est à vous, enfin, toutes ces émissions, on n'arrête pas de repasser des extraits, de les monter, pour ne pas parler des réseaux sociaux qui font ça en permanence. Mais c'est vrai qu'en 95, c'était vraiment.
Et puis une heure en plus, hein, vous le rappelez
oui,
là,
oui,
c'était
oui,
une heure, c'est,
oui, c'est oui,
énorme
ben oui,
à la télévision.
À une heure de grande écoute. Ce qui fait qu'en effet, les responsables de la télé, les journalistes de la télé, dès le début, ont été partagés entre deux réactions. Une espèce de réaction tout de même de se dire « Ah bah oui, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant de nous faire de nous... producteurs d'informations, de faire de nous-mêmes des sujets d'études, des sujets de reportage, des sujets d'enquête. Voilà, et quelque part, ça peut être salutaire. Et à l'autre extrémité du spectre, quand même, une réaction de refus absolument radicale, quoi. De quel droit vous vous permettez de faire notre procès, de nous donner des leçons. De temps en temps, on était procureur, de temps en temps, on était bœuf-carotte, et de temps en temps, on était prof ou je ne sais quoi. Donc il y a toujours eu cette réaction un peu schizophrénique du milieu des médias, et y compris même à l'intérieur du Monde. Puisque donc je faisais ça au Monde et j'ai été viré du Monde en 2003.
Alors pas par rapport à l'émission télé.
Non, pas par rapport à
un livre et à des passages où tu critiquais la direction de l'époque, donc Jean-Marie Colombani et Edoui Plenel dans la manière dont ils avaient réagi au livre de Pierre Péan sur le Monde, justement, et qui était un brûlot contre le Monde.
C'est-à-dire que le Monde supportait et trouvait ça très bien, je critique les autres médias, mais effectivement, quand le Monde s'est trouvé lui-même au centre de critiques très violentes et d'un livre très, très violent contre sa direction...
La face cachée du Monde, c'était le titre du livre de Pierre Péan.
En 2003, de Péan et Philippe Cohen. Ouais. Et que j'ai essayé de faire le même métier, c'est-à-dire de critiquer la direction de mon propre journal, ça s'est terminé par un lourdage. Et ça s'est aussi terminé donc par un lourdage finalement à la télé en 2007.
Deux ans après l'arrivée de Patrick de Carolis à France Télévisions.
Et ce n'est pas sans rapport.
Voilà, parce que tu avais critiqué le fait qu'il avait bidonné, ou qu'une des séquences de l'émission des Racines et des Ailes qu'il présentait avait été bidonnée. Et donc il s'est peut-être vengé deux ans plus tard, pas immédiatement.
On peut supposer qu'il y avait une part de vengeance effectivement dans le fait qu'on ait été, lourdé. Mais finalement, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était dans l'ordre des choses, surtout à l'époque. Le miracle, c'est qu'on est tenu 13 ans sur France 5, quoi.
C'est aussi parce que c'était une émission extrêmement distrayante, intéressante, utile. Ça marchait, quoi.
Oui, mais il y en a plein d'autres qui étaient tout aussi distrayantes, intéressantes.
Et c'était intellectuellement assez stimulant. C'était pas.
Mais c'est-à-dire que les PDG de France 5, il y en a plusieurs qui se sont succédés pendant la période. Et les PDG de France 5, quand ils arrivaient et qu'ils se trouvaient face à cet ovni, si vous voulez, ils avaient dans l'oreille droite tout leur milieu professionnel, les journalistes, les directeurs de rédaction, etc., qui leur disaient « Non, mais tu vas arrêter ça tout de suite. Je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est donneur de leçons, etc. » Et comme c'était France 5, ils avaient tout de même dans l'oreille gauche tout le corps enseignant, puisque France 5, à l'époque, ça a bien changé, c'était... mais quand France 5 est née, c'était
vraiment...
C'était « Éducon », le slogan, chaîne du savoir et de la connaissance. Donc les directeurs de France 5 passaient quand même pas mal de temps dans les milieux scolaires, dans les établissements scolaires. Et là, ils entendaient « Mais formidable, Arrêt sur image, mais génial, mais on l'utilise avec nos élèves, c'est fantastique, etc. Il en faudrait plus. » Voilà. Donc la résultante de ces pressions contradictoires faisait que le directeur de France 5, normalement constitué, si vous voulez, était atteint d'une espèce de paralysie et qui se disait « Bon, ben voilà, on bouge pas. »
Alors, il est 19h47, nous n'allons pas tarder à être interactifs si vous souhaitez poser des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à commencer à les préparer dans votre tête, et après on fera un comptage pour avoir une idée du nombre de questions auxquelles on va devoir répondre. Mais avant ça, on ne peut pas ne pas parler donc du contexte dans lequel cette émission a été produite. Quand tu es parti de France 5, donc après être parti du Monde en 2007, tu as décidé de te lancer dans l'Internet, et plus précisément la partie visuelle de l'Internet, c'est-à-dire le web, et de créer un projet, donc une entreprise qui s'appelle Arrêt sur image. Alors au début, le A de Arrêt, c'était le A du mail,
c'était l'arobase.
Je ne sais pas si c'est plus le cas aujourd'hui.
Non, on a changé, on a une V2 depuis janvier, on a viré l'arobase.
Donc qui a continué à produire cette émission, qui en a produit beaucoup d'autres, et qui a fonctionné. Ça, c'était un choix audacieux et ambitieux, donc dans un système payant et sur abonnement. À une époque où, rappelons-le, donc il n'y avait que Mediapart qui avait fait ce pari.
Non, je suis désolé de
avant Mediapart, évidemment.
Nous avons commencé avant Mediapart.
Oui, avant Mediapart, mais c'était bon, 2007-2008.
Enfin, ça porte sur trois mois, voilà. Hein, mais on a quand même commencé avant Mediapart.
Donc, dans une époque où très peu de gens faisaient ça, vous avez choisi, avant Mediapart, de vous lancer en payant, donc sans
même,
publicité, en fait.
Je pense même
que
notre succès n'a pas été étranger au fait que Mediapart se soit lancé derrière.
Ça, je ne sais pas. Il faut le...
Je pense. Ah, je pense qu'ils ils étaient, non mais sans blague, ils étaient très hésitants. Ils étaient très hésitants, ils se demandaient franchement le mode. Parce que, alors là, on est en 2007-2008, et en 2007-2008, tout le milieu explique que le modèle payant sur Internet, ça marchera évidemment jamais, que jamais personne ne payera pour l'info sur Internet. Ouais. Le site à la mode à l'époque, c'est Rue 89,
qui est tout jeune aussi. Hein.
Qui est tout jeune, hein, tout ça est contemporain. Hein. Ouais. Et Rue 89, où tout le monde explique que le seul... voilà, il n'y a que la pub, quoi, mais le payant ne marchera jamais. Et alors... nous, en fait, on n'a pas véritablement de mérite, si tu veux, puisque l'histoire, elle n'est pas exactement comme tu l'as raconté. C'est-à-dire que quand on a été viré de France 5, immédiatement, il y a un internaute dans un coin, un internaute habitant dans le Gard, et qui venait d'avoir une petite fille. Sa petite fille avait exactement 11 mois au moment où on a été viré de France 5, qui a été saisie d'horreur et qui s'est dit « Je ne veux pas que ma fille grandisse » dans un monde dominé par TF1 et dans un monde où il n'y a pas de contre-pouvoir à TF1. Et cet internaute a lancé une pétition sur laquelle, au début, moi, j'étais extrêmement sceptique. Je me disais, bon, une pétition, enfin, voilà, il y aura 5000 signatures, etc. Et à la mi-juillet, on a été viré à la mi-juin, à la mi-juillet, la pétition avait atteint 185 000 signatures, une pétition en ligne, c'était une des premières. Et là, j'ai commencé à me dire, bon... alors, 185 000 signatures pour qu'on continue. Si on arrive à convertir en abonnés ne serait-ce que 10 ou 15 ou 20% de ces 180 000 signatures, le truc est peut-être jouable. Et on a décidé de jouer le truc. Mais finalement, l'initiative n'est pas partie de moi. Je n'aurais jamais imaginé tout seul cette espèce d'aventure de concevoir un site de réflexion sur les médias, de déconstruction des discours médiatiques sur Internet financé par des abonnés. Et ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai fait connaissance avec cet internaute, tout à fait sympathique d'ailleurs. Et comme sa gamine, il l'avait appelée Loubiana, la société, nous avons décidé de l'appeler Loubiana.
Ah, d'accord, je comprends ce que j'ai vu.
J'adore raconter cette histoire parce que c'est une belle histoire.
C'est un joli prénom.
C'est un joli prénom.
Ouais. Et du coup, là, bah, 11 ans hein, maintenant pour le site Arrêt sur l'image, le projet. T'es devenu chef d'entreprise, tu l'étais peut-être déjà puisque tu étais producteur de l'émission.
Ah non, je n'étais pas du tout patron avant. Non, non.
Mais tu étais producteur quand même
Oui, mais producteur intellectuel. On avait un producteur qui s'occupait du sérieux, c'est-à-dire le fric et la technique.
Donc devenir devenir patron de médias.
C'est chiant.
c'est compliqué.
C'est épouvantablement chiant. Vous devez faire des trucs. Voilà, patron, quoi. C'est une TPE, hein. On est 9 CDI, donc c'est vraiment...
ce qui est pas mal quand même.
On est encore dans les TPE, si tu veux, les toutes petites PME. Mais en fait, toute cette partie du boulot qui consiste à accorder ou à refuser les augmentations, à gérer le juridique, à entretenir les relations avec l'expert comptable et l'avocat, qui sont des gens charmants. Mais enfin, moi, ce n'est pas mon métier de base. Mais enfin, je le fais parce que voilà, c'est... en même temps, c'est une expérience... c'est une expérience intéressante, mais oui, je suis patron.
Super. Alors, on va bientôt prendre des questions. Alors, il y a un domaine qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la littérature au sens large. Tu as écrit énormément de livres. J'en ai apporté un, d'ailleurs, qui est du journalisme après Bourdieu. Je voulais lire un passage tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave. T'as écrit aussi...
T'as lu Les petits gâteaux, c'est mieux.
Ouais.
Les derniers gâteaux.
Et du coup, il y a des livres qu'on peut avoir en ligne. Il y en a un qui s'appelle Terra Incognita.net qui a été publié en 2013. Tout à l'heure, tu me disais ça, c'est vieux, 2013, c'est plus récent. Et donc, je l'ai lu, je l'ai reçu. Ça parle donc de toi. Et tu expliques dedans, donc en 2013, 10 ans après ton départ du monde, que tu fais de la randonnée tous les ans et que dans ta randonnée, tu croises systématiquement le directeur du Monde et vous avez un dialogue. C'est quoi. Et d'ailleurs, à la fin, c'est signé Loubiana. Je ne comprenais pas ce que tu disais à Loubiana. Je me disais que
je ne le croise pas pour de vrai. Hein.
Oui, c'est
tout,
imaginaire.
Tout ça est fantasmé. Ouais.
Et donc, petit dialogue imaginaire.
C'est de la littérature. Hein.
Tu ne crois pas que tu es un peu ridicule, directeur du Monde. Parce qu'en fait, tu expliques que ton rêve était de devenir directeur du Monde. J'enchaîne parce que tu disais que c'est dur d'être patron. Tu ne crois pas que tu es un peu ridicule, directeur du Monde.
J'étais un peu dingue.
Directeur du Monde, franchement, tu crois vraiment que tu as le physique du rôle? Regarde-toi. Et réponse de toi, donc à toi, c'est le dépit qui te fait parler. Tu sais très bien que tu as la carrure et que tu ferais mieux que tous les autres. Voilà. Donc, petit dialogue.
J'ai longtemps eu ce petit vélo, oui. Mais voilà, j'ai mis longtemps à me guérir de ce petit vélo, d'avoir envie d'être directeur du Monde. Mais je crois que là, ça va.
Et littéralement, en marchant, tu fais vraiment de la marche ou c'est...
Ah bah, oui, la randonnée, c'est vrai. La randonnée, c'est vrai. Et l'avantage de la randonnée en montagne, c'est que vraiment, tu te vides la tête. Je ne sais pas si tu en as déjà fait.
Très peu.
Mais tu devrais.
Ouais.
Vraiment, tu te vides la tête et voilà, les idées les plus... Pour moi, c'est des grands moments de ressourcement et de créativité, même quand c'est de la créativité totalement débile, c'est-à-dire quand je rencontre le directeur du Monde sur un GR au milieu des alpages.
Alors, on avait dit au tout début qu'on allait parler donc des livres. Il se trouve qu'il y en a un que j'ai pas lu parce qu'il n'est pas encore sorti et que j'ai pas eu le temps de demander un envoi presse ou quelque chose comme ça, mais dont le sujet a l'air hyper intéressant, j'ai l'impression est plus historique que la plupart des autres.
Oui, il est totalement historique, mais c'est toujours un peu la même obsession. C'est-à-dire que l'idée de ce livre est née de l'observation du désarroi des journalistes américains. Quand ils ont vu arriver Trump. C'est-à-dire quand ils ont vu arriver Trump, c'est-à-dire cette espèce de phénomène politique qui ressemblait à rien, qui était totalement sans précédent, qui était évidemment totalement improbable aussi, ces journalistes se sont dit, les meilleurs journalistes américains se sont dit, mais on a raté un truc, quoi. Comment se fait-il qu'il y a encore 6 mois, on ricanait, et puis il est aujourd'hui à la Maison-Blanche. Et donc ils ont été, et ils sont toujours, hein, parce que le phénomène n'est pas terminé, ils ont été profondément déstabilisés. Et c'est à ce moment-là que dans un certain nombre de sites de presse américains, ont commencé à être publiés des papiers historiques sur la manière dont les journalistes occidentaux, américains notamment, avaient vu ou n'avaient pas vu l'ascension de Hitler au début des années 30. Parce que les journalistes américains se sont dit, on a bugué quand même grave, donc on a envie d'aller voir si nos prédécesseurs qui étaient en poste en Allemagne dans les années 30, ont bugué de la même manière que nous, c'est-à-dire n'ont rien vu venir. Et en fait, moi, je me suis dit, oui, c'est vrai, j'aimerais bien comprendre, voir comment la presse occidentale, alors c'est juste sur la presse occidentale, hein, c'est-à-dire, et plus particulièrement sur les reporters, justement, si on parle de reportage, les reporters, les correspondants français, anglais, américains qui étaient à Berlin au moment de l'avènement d'Hitler, et il y en avait pas mal. Hein. Il y avait quand même 200 journalistes étrangers qui étaient à demeure en poste à Berlin. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Est-ce qu'ils ont alerté ? Est-ce qu'ils n'ont pas alerté ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient voir ? Qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir ? Ce qu'ils pouvaient le voir, est-ce qu'ils l'ont vraiment écrit ? Et voilà. Et en fait, c'est encore un reportage, ce livre. C'est un reportage parmi mes confrères des années 30, français, britanniques et américains.
Et t'as pu avoir accès à toutes les archives.
Alors, ce qui est génial maintenant...
Avec Internet.
Avec Internet. Et la raison pour laquelle peut-être ce livre aurait été beaucoup plus difficile à faire il y a 15 ou 20 ans, c'est que maintenant, énormément de choses sont en ligne, notamment en France, grâce à cet outil absolument prodigieux qui s'appelle Gallica et dans lequel vous pouvez retourner voir les journaux parfois depuis le 19e siècle avec leur mise en page originelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement les PDF des articles, vous avez toute la page et vous pouvez voir si concrètement tel pogrom, telle exécution de masse... en Pologne ou en Autriche ou je ne sais où, a fait la une du journal ou a fait une brève en page 8. Donc vous pouvez vraiment voir l'importance qui a été donnée à l'époque par la presse à ces faits historiques. Donc pour la France, Gallica, pour les États-Unis, tout le New York Times depuis 1854 est accessible dans sa mise en page originelle. Donc là aussi, c'est un outil absolument extraordinaire. Et alors, l'autre matériau que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est que tous ces braves journalistes qui étaient en poste à Berlin à l'époque, et qui, il faut bien le dire, pour la plupart d'entre eux, n'ont quand même rien vu, puisque c'est quand même ça le sujet du livre, c'est que moi, à l'arrivée, je suis sidéré par le fait que à quel point ils ont été aveugles à Hitler pendant très, très, très longtemps. Ensuite, ils ont écrit des mémoires dans lesquelles ils tentent de raconter leur...
aveuglement.
Leur vie, et dans lesquelles, pour les plus honnêtes, ils tentent de comprendre leur propre aveuglement. Et pour les autres, ils essayent d'expliquer que si, ils avaient tout compris, ils avaient tout vu. D'ailleurs, tel jour, ils ont fait un article qui montrait bien qu'ils avaient parfaitement... Voilà. Donc ça aussi, la confrontation de ces mémoires et de leur production réelle dans les collections des journaux, voilà, donne la base de ce livre qui est un voyage parmi mes lointains confrères. Alors un voyage dans lequel j'ai à la fois constaté qu'ils ont pas vu grand-chose et dans lequel en même temps j'ai absolument aucune envie ni aucun désir de leur donner quelques leçons que ce soit. Parce que, évidemment, j'ai passé la totalité de ce reportage à me demander est-ce que moi, j'aurais fait mieux. Évidemment, j'aurais pas fait mieux. Mais voilà. Donc, voilà, c'est ça, ce livre.
Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, 1, 2, 3, 4 sur 4. Vous n'aurez pas de regrets ? Très bien. On va commencer avec vous, madame.
J'ai été très, très ravie que vous soyez ici présent, parce que c'est formidable de vous voir en vrai, parce que je vous lis dans la Libé.
Je ne sais pas, je me rends plus compte, oui, moi, parce que c'est vraiment, tous les jours.
Et qu'est-ce que vous souffrez à nos jours, hein, avec une télévision poubelle. Vraiment, c'est une télévision poubelle. Il y a des gens qui disent, ah non, je n'ai pas la télé, par fierté, avec une fierté, parce que toutes vos émissions, ça a élevé les débats. Il n'y avait pas un dimanche que je ne vous regardais pas. Mais qu'est-ce que c'est savoureux ? Quel esprit !
Mais j'espère que vous continuez, madame. Vous ne continuez pas.
Non, ça veut dire que je ne la vois pas, cette émission.
Mais vous savez qu'elle est sur Internet.
Je n'ai pas l'Internet.
Ah.
Je n'en ai pas. Oui,
c'est cruel de vous priver d'un tel plaisir.
Je n'en ai pas, je fais partie des gens qui n'ont pas, il faut venir aux bibliothèques, voilà. Mais je me souviens de ces temps-ci, même l'état d'esprit français.
Mais ne vivez pas dans le regret, ne vivez pas dans la nostalgie. Venez la voir à la BPI.
Mais je viendrai à la BPI, bien sûr. Là,
merci.
Vraiment, c'est ça.
Est-ce que vous avez une question ou pas, ou c'était juste pour... Est-ce que vous aviez une question aussi ou
Non, c'est ma question, c'était vraiment mon admiration. Bon, c'est la même chose. Ça veut dire, ça, c'est état d'esprit.
Est-ce qu'il est là en vrai ? Oui, je peux.
Ah oui, ah oui. Vraiment, et puis il est beau en plus.
Merci beaucoup pour cette contribution. Il y en avait 1, 2 et une derrière aussi, 3. Ouais. Bah, si vous voulez. Merci beaucoup pour le passage de micro. On a le temps, en fait, hein.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'avais une question par rapport à l'émission Quotidien. Je ne sais pas si c'est une émission que vous regardez. Je me demandais quel regard vous portiez. Je sais qu'elle est parfois très appréciée, mais aussi très critiquée pour son montage. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des points communs avec Arrêt sur image ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous rejoignent, qui vous différencient ? Enfin, voilà, quel est votre regard sur cette émission ?
Alors là, j'ai arrêté de la regarder depuis la rentrée, là, parce que j'ai l'impression que ça ne se renouvelle pas énormément et que s'il y a des choses intéressantes, de toute façon, on va les retrouver sur les réseaux sociaux. Mais d'une manière générale, si vous voulez, j'ai de plus en plus de mal maintenant à regarder des émissions en linéaire. C'est-à-dire que je trouve que quand on a pris l'habitude, mais après je vais vous répondre directement, mais quand on a pris l'habitude d'avoir une consommation d'images qui est plutôt une consommation réseaux sociaux, c'est-à-dire avec des vidéos qui sont mises en ligne soit par les chaînes, soit par les internautes, c'est très très difficile. Je ne sais pas si d'autres dans cette salle partagent cette difficulté. C'est très très difficile ensuite de revenir à une consommation linéaire. C'est, par exemple, y a, évidemment, je trouve que Cash Investigation est une excellente émission. Mais j'arrive pas à la regarder, j'arrive pas à prendre les 2h30 ou les 3h que dure cette émission pour la regarder en linéaire.
Donc tu regardes un reportage ?
Je regarde en général le lendemain matin très tôt ce qui a surnagé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les 3-4 moments qui sont des moments importants. Et quand j'en ai envie, je vais la voir en replay, le replay permettant de faire des sauts de puce et de voilà. Mais et c'est pareil pour la presse écrite d'ailleurs. Maintenant, j'arrive plus à lire un journal papier. Je lis dans le meilleur des cas les PDF. Quand j'ai vraiment envie de lire un journal, je le lis en PDF. Et sinon, je le lis avec la hiérarchisation qui est celle des sites, c'est-à-dire et de plus en plus aussi d'ailleurs en allant chercher tel sujet. De plus en plus maintenant, quand j'ai envie de m'intéresser, ce matin par exemple pour ma chronique d'Arrêt sur image, je voulais creuser cette histoire de milliardaire indien qui a financé le film de Julie Gayet en échange du marché des Rafales, là. Voilà, donc j'ai cherché, j'ai fait une recherche ciblée, Gayet, Hollande, Rafale, Inde. Mais personnellement, j'ai décroché de la presse traditionnelle, c'est-à-dire des hiérarchies de l'information imposées par une rédaction qui vous dit voilà ce que vous allez lire et regarder, et voilà dans quel ordre vous allez le lire et le regarder. Je peux plus. Quand on est, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais quand on est passé à une consommation web de l'information, en tout cas pour moi, c'est très très difficile.
Moi, j'arrive même plus à écouter un journal à la radio. En vrai, parce que
T'es pire que moi. Alors.
Ouais, je suis pire. Ouais. Alors que c'est quand même ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire, c'est pas oui, parce que c'est, oui. C'est que souvent il y a la moitié des sujets, je les connais, j'en ai entendu parler avant.
Non, mais il y a plusieurs choses, si vous voulez. Il y a d'une part que quand vous êtes un peu addict aux réseaux sociaux, ce qui est mon cas, puisque je passe quand même ma journée sur Twitter, quand vous êtes un peu addict aux réseaux sociaux, finalement, ce que vous dit le 20h ou, mais je vais répondre sur quotidien. Il y a pas de souci. Ce que vous dit le 20h ou ce que vous dit le journal de 8h de France Inter le matin, vous le savez déjà. Les trois quarts du temps, vous le savez déjà. Donc vous êtes dans des espèces de programmes de confirmation de ce que vous savez et qui répètent tous la même chose. Voilà. Et en plus, c'est le facteur aggravant, c'est que tous ces médias formatés, sont, on s'en rend compte quand on passe de l'autre côté, sont des médias qui tirent à la ligne. Je veux dire, le monde papier, quand vous lisez le monde papier et que vous êtes habitué aux réseaux sociaux, mais je dis ça pour le monde, mais c'est vrai pour tous les journaux, vous vous rendez compte à quel point ces médias tirent à la ligne parce qu'ils sont obligés de remplir 18 minutes pour un journal radio, 40 minutes pour un journal télé ou 40 pages ou je ne sais combien pour un quotidien. Donc comme il faut de toute façon remplir, ce qui pourrait faire 30 secondes ou deux paragraphes de texte est tiré sur 12 paragraphes sans aucun intérêt et avec de la littérature autour. Enfin, c'est juste inconsommable, quoi. C'est inconsommable. Donc tout ça pour expliquer que je regarde plus quotidien depuis la rentrée, mais que je regarde éventuellement des sujets quand ils surnagent sur les réseaux. Bon, quotidien, c'est un produit médiatique. Enfin, le petit journal avant, c'est un produit médiatique composite. C'est-à-dire qu'à la fois qui sacrifie aux exigences du spectacle, avec les applaudissements, le public à qui on demande de s'habiller en couleur acidulée parce que c'est plus joli. Enfin, je veux dire tout le côté infodivertissement. Bon. Et avec des incontestablement des vraies enquêtes à l'intérieur. Je veux dire, ils ont quand même fait. J'ai l'impression, moins depuis qu'ils sont sur TF1...
Poil à gratter quand même, beaucoup plus qu'enquête profonde. Enfin, ils ont quelques trouvailles, mais c'est pas...
À moi, quand on m'a expliqué que Sarkozy avait prononcé 8 fois le même discours, mot pour mot, je trouvais que c'était une vraie information. J'apprenais quelque chose.
C'est des vraies enquêtes. Enfin, c'est des vraies infos. Après, enquête comparée à des... À des travaux de longue haleine qui durent des mois sur des sujets complexes.
Oui, mais encore une fois, si tu veux, moi, je considère qu'il n'y a pas de petite ou de grande enquête. Je veux dire, à partir du moment où j'apprends quelque chose que je ne savais pas et que il y a des journalistes qui se sont donné du mal pour le chercher et le mettre en forme, je considère que c'est de l'enquête. Je veux dire, l'exemple le plus frappant, c'est ça. C'est quand ils allaient rechercher dans les archives qui vous démontrait que Jean-Marc Ayrault avait exactement prononcé le même discours 2 ans avant, sans que personne avant eux s'en soit aperçu, quoi. Ouais. Bon, après, je suis plus sceptique sur le côté... alors, comme tu dis, poil à gratter, c'est-à-dire on a le micro, la perche, et on va essayer de... Ou alors on interpelle 18 fois Jean-Luc Mélenchon pour lui demander ce qu'il pense de la dernière déclaration de Bidule. Ça, je trouve que ça apporte pas... Enfin, je veux dire, c'est des séquences qui auto-secréteuses, enfin, qui se secrètent elles-mêmes, je veux dire, et qui créent elles-mêmes leur propre plus-value. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment où on a bien énervé un politique en lui posant 8 fois la même question sans intérêt, à la 8e fois, il s'énerve. Donc, il s'énerve. Et qu'est-ce que ça nous dit sur ce politique, sur sa politique, sur sa pensée ? Rien.
Et du coup, je rebondis avant de donner la parole aux deux dernières questions. Qu'est-ce que ça veut dire, une addiction à Twitter? Qu'est-ce que tu fais toute la journée sur Twitter? Tu tweets, tu lis?
Je me le demande.
J'ai toujours eu une aversion pour les écrans et les... paradoxalement. Mais du coup, je me tiens vraiment éloigné. T'es pas du tout la seule personne que je connaisse qui a une passion pour les informations sur Twitter et qui a été complètement accrochée par cet outil.
Mais c'est une passion malsaine. Hein.
Mais j'aimerais bien comprendre alors.
Mais c'est ça, c'est une addiction. Est-ce que tu peux comprendre une addiction?
Ouais.
Pas toujours.
Mais pas justement, toujours. Qu'est-ce que tu trouves concrètement, si tu devais décortiquer ton temps sur Twitter, ça ressemble à quoi? T'as des faux comptes, tu suis, tu suis pas, comment tu utilises cet outil?
C'est devenu maintenant mon fil d'alerte. C'est mon fil d'alerte en tant que journaliste, c'est pas compliqué. C'est un fil d'alerte gratuit. Beaucoup plus rapide que l'AFP ou que les agences, si vous avez besoin d'être informé vraiment rapidement, voilà. Et à partir du moment, et je crois que l'astuce sur Twitter, c'est d'arriver à bien configurer son compte, c'est-à-dire suivre tous les comptes qui vous intéressent et rien que les comptes qui vous intéressent, voilà. Et je dois dire, je passe énormément de temps à configurer mon compte. Le mec, il est encore plus vicieux que tu pouvais imaginer.
Non, pas du tout.
Je passe du temps à configurer mon compte.
C'est tout à fait logique.
À le polir.
Facebook, pas du tout, du coup.
Non, pas du tout.
Et tu le configures, donc c'est ton compte que tu suis. T'as pas des mots-clés auxquels tu es abonné ou des listes, parce qu'à un moment, il y avait des listes, des choses comme
non,
ça.
Je n'ai pas bien compris comment ça marche.
Mais tu es abonné à combien de comptes?
Alors, je suis abonné à peu près à 280 comptes, je crois.
Ce qui est très peu.
Ce qui est raisonnable.
Ouais.
Ce qui est raisonnable. Et donc, j'en rajoute périodiquement quand il y a une...
Tu en enlèves aussi,
De temps en temps, c'est comme chez toi. De temps en temps, tu as une espèce d'envie de grand ménage, comme ça. Et paf, tu vas voir les 280, t'en supprimes 15 et t'es content, quoi. Tu te dis, je suis arrivé à en supprimer 15.
Et quand tu vois, donc, sur un réseau comme celui-là, l'apparition de tweets sponsorisés, de choses comme ça... Est-ce que ça te commence à te gêner ou pas encore? Tu trouves que c'est normal?
Sur Twitter, il y en a quand même relativement peu. D'accord. Ils sont bien signalés, donc on arrive bien... voilà.
Et Instagram, non? Parce qu'Instagram, ouais. J'ai l'impression que si on suit pas Instagram, on s'isole beaucoup de la réalité de plein de gens qui sont moins à l'aise avec l'écrit.
Oui, par exemple. Mais là, si tu veux, d'abord, on se heurte à un phénomène... navrant mais absolument incontestable, qui est que les journées ne sont pas élastiques, si tu veux. Ouais. C'est ce qui est aussi désolant que ce soit. Et en plus, oui, alors là, j'ai plus de mal avec Instagram. J'ai plus de mal à comprendre comment ça marche et à trouver les... Et puis, je suis... voilà, ça peut paraître paradoxal pour un type qui fait arrêt sur image depuis 95, mais je suis un mec du texte, en fait.
C'est pas si...
Je savais pas.
Ah, je suis pas au courant.
Oui. Ouais. Je savais pas. Vous voulez aussi poser une question? D'accord. Donc il y a deux personnes. Après, ça sera à vous.
Ça marche comme ça. Oui.
Ouais.
Bonjour. Je voulais faire une réflexion déjà par rapport à la consommation de l'information sur le web. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la consommation radio. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent à la radio, alors qu'avant on était sur la télé. En tout cas, la génération que je suis, on revient au matinal, on surfe sur la radio en fait. On change les canaux et c'est une consommation qui ressemble un peu à la mienne que j'ai sur les réseaux sociaux.
Mais c'est-à-dire, vous trouvez qu'il y a beaucoup de programmes de radio qui sont mis en ligne sur Twitter, ou vous trouvez que le mode de consommation...
Le mode de consommation que vous disiez, quand le matin, en fait, on regarde plein de flashs d'informations sur notre fil d'actualité. Moi, je l'ai le matin, je change mes stations. J'ai la matinale de RTL, après je passe sur France Info, après je passe sur France Culture. Enfin, on consomme l'information par instantané, quoi. Et du coup, ça me fait un panel.
Non, mais alors, c'est pas Twitter qui ressemble à la radio,
c'est la radio qui ressemble
à Twitter, en fait. C'est votre consommation radio qui ressemble à une consommation Twitter.
Ouais, exactement. Et donc, ça, c'était une réflexion. Et la deuxième chose.
Soigne. Hein.
Ouais. Je voulais pas vraiment vous spoiler sur le bouquin que vous avez écrit, mais c'est une interrogation que j'ai énormément. Je suis assez fascinée par l'aveuglement des journalistes, par exemple, que vous avez. C'est l'objet de votre bouquin, ou alors l'aveuglement des élites. Par exemple, moi, je me pose beaucoup la question sur les gens qui travaillent dans les grosses boîtes, les gros patrons, les gens, les élites intellectuelles, les élites économiques, font en fait reproduisent en fait les mêmes schémas, sont aveuglés par l'impact de leurs décisions. comme les médias sont aveuglés en fait par la scène qui se déroule sur leurs yeux et ont du mal à, en fait, à le décrypter, à prendre le recul. Et
mais c'est un phénomène qui m'intéresse de plus en plus. Ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais alors, le pourquoi, vous constatez qu'ils sont aveuglés, mais est-ce que vous avez des raisons, vous avez réussi
S'agissant de mon objet d'étude particulier là, sur les correspondants sur les envoyés spéciaux en 1933, oui, j'ai réussi à isoler une série d'une dizaine de raisons qui, toutes individuellement, peuvent concourir à cet aveuglement collectif.
Voilà. On ne va pas spoiler, comme dit.
Oui, je
non,
sais.
Mais spoiler, ça veut dire... Non, mais ce n'est pas construit comme un polar. Hein, je veux dire, certaines sont évidentes. C'est que tout de même, ils ne pouvaient pas écrire ce qu'ils voulaient.
De l'information.
S'ils écrivaient des trucs qui ne plaisaient pas à Goebbels... Alors, ils n'étaient pas virés. Enfin, il y a eu très peu de virés d'Allemagne. Mais en général, ils étaient interdits d'y rentrer après des vacances. Donc, ça revenait au même, si vous voulez. Donc, ça, c'est un phénomène physique. Voilà, c'est la censure. C'était un régime totalitaire. C'était le pire d'entre tous les régimes totalitaires, je crois qu'on peut le dire. Donc, il y avait effectivement, même s'il n'y avait pas de censure a priori, il y avait... Après, il y a d'autres facteurs conjoncturels à ce groupe humain-là, à ce moment-là. Par exemple, le fait que je n'avais pas mesuré avant de commencer l'enquête et qui m'est apparu de manière aveuglante ensuite, que la plupart des patrons de presse de ces médias qui se trouvaient à Berlin à ce moment-là étaient des gens qui étaient des anticommunistes forcenés. Ouais, ouais. Ils avaient une peur, c'était la peur du bolchevisme. C'était la peur que la révolution russe s'étende et gagne l'Europe et les États-Unis. Et donc, vous parliez d'élite. Pour énormément d'élites économiques de cette époque-là, que ce soit les patrons de presse comme les autres patrons, la trouille, c'est l'URSS. Et donc, après tout, Hitler, s'il arrive à contenir le danger bolchevique, c'est un moindre mal. Après, voilà, il y a plein d'autres trucs.
C'est difficile intellectuellement de comprendre comment on est aveuglé à ce point-là, ou même aujourd'hui encore. Hein, on voit que on a des actions en fait qui ont des impacts énormément négatifs. Et en fait, on n'arrive pas à s'arrêter, comme vous le disiez, par exemple, pour l'écologie ou des gros patrons qui licencient à tour de bras. Ils sont aveuglés par... Enfin, il y a un côté aveuglé, mais on le voit aussi dans les médias ou bien les élites économiques. Il y a une sorte d'aveuglement que vous avez décrit, qu'on retrouve dans beaucoup de...
Mais vous avez complètement raison. C'est totalement contre-intuitif parce que on se dit que, je veux dire, un patron d'entreprise du CAC 40 ou un patron de multinationale, je veux dire, il paye des gens pour l'informer. Enfin, il paye des gens pour lui donner les bons chiffres, les bonnes données, pour faire de la prospective, pour faire de la stratégie. Donc, on part du principe que toute décision d'un responsable économique important sera une décision intelligente, éclairée. Mais c'est faux.
Ouais.
Mais c'est faux, vous avez complètement raison. Et c'est absolument fascinant. Alors, dans le cas des patrons, j'en sais rien, mais c'est drôle parce qu'un de mes premiers livres, d'ailleurs mon premier livre, en 87, s'appelait « Tout va très bien, monsieur le ministre ». Et alors, pour le coup, c'était une enquête-reportage dans les milieux politiques français, parmi les très hauts dirigeants français. Alors, à l'époque, c'était Mitterrand, Chirac, Rocard, etc. Et j'avais vraiment fait une enquête de terrain sur la vie quotidienne de ces gens-là. Et sur la manière dont, finalement, physiquement... leur entourage les isolait de la réalité et du réel. Les phénomènes de courtisanerie parmi les entourages, qu'on retrouve aussi les patrons, hein, je veux dire les mêmes. Les phénomènes de courtisanerie parmi les entourages, les conditions matérielles de vie beaucoup plus faciles, les chauffeurs, les voitures, les avions privés, les fonds secrets, etc. J'avais vraiment tout passé en revue pour essayer de montrer physiquement comment tout ça concourait à un isolement. Et je crois que c'est juste un constat qui a pas pris une ride aujourd'hui, si vous voulez. Quand vous voyez
peut-être
Macron,
les fonds secrets, juste.
Sauf les fonds secrets, peut-être. Mais quand vous voyez comment Macron a réagi à Benalla, je veux dire, c'est juste incompréhensible. Alors, soit il est tenu par Benalla, soit que d'emblée il n'est pas compris le phénomène Benalla, s'agissant quand même de quelqu'un qui a fait Normal Sup, Léna, qui est jeune, qui n'est encore pas trop fossilisé intellectuellement, on peut l'espérer. Enfin, c'est absolument incompréhensible.
D'ailleurs, c'est le truc qu'a expliqué Benalla en direct, quand il a parlé du phénomène de cour et de la manière dont Macron était déconnecté de la réalité. Tout le monde...
Ah, il a dit ça ?
Oui, quand il a été interviewé sur TF1, il a tout de suite parlé du phénomène de cour et de la manière dont tout le monde était déconnecté et cherchait des signes dans le président d'approbation ou non des actions. Enfin,
on connaît ça en France depuis Saint-Simon et Louis XIV. Et la France est un terreau particulièrement fertile à ce genre de choses, beaucoup plus que les États-Unis, par exemple. Ouais. Mais c'est toujours fascinant, quoi. C'est toujours fascinant. Et d'une manière générale, maintenant, ce qui m'intéresse de plus en plus, effectivement, c'est les phénomènes d'aveuglement. Les phénomènes de déni, les phénomènes d'aveuglement. Je trouve que s'il reste un continent à explorer journalistiquement, pour moi, dans le temps qui me reste, c'est plutôt dans cette direction-là que j'aimerais aller. C'est-à-dire pas réfléchir sur les informations qu'on ne me donne pas, mais réfléchir sur les informations que je refuse d'entendre et que je sois simple citoyen ou PDG de Total.
Il y avait monsieur qui lève le doigt. Il y a encore du coup deux autres questions qui se sont manifestées et on conclura après. Oui, monsieur qui est au centre, et puis derrière il y a une autre main et devant. Je ne vous ai pas oublié. On va laisser le micro voyager.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça ne sera pas du tout sur les médias, etc., mais c'est sur Image. Ça fait 20 ans que cette musique, qui est hyper bien construite, qui représente bien ce que ça veut dire, avec cette musique très saccadée qui s'accélère, qui représente bien ce qu'elle veut, voilà, l'émission existe. Donc moi j'aimerais connaître l'histoire de cette musique d'Arrêt sur Image.
Ah, j'ai eu peur là. J'ai cru que vous alliez m'annoncer en direct que vous étiez le compositeur.
Ah non, du tout.
Et que vous me demandiez des droits d'auteur depuis 22 ans. Si vous voulez, l'histoire de cette musique d'Arrêt sur Image, elle est ultra simple. C'est-à-dire quand on s'est cherché un générique à l'époque, donc en 95, on a cherché une musique qui était libre de droit. On en a trouvé 5, 10, puis on a choisi celle-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Qu'est-ce qu'elle évoque ? Je ne sais pas si elle évoque quelque chose. Vous dites qu'elle correspond bien à l'émission. Mais êtes-vous certain que vous ne vous dites pas ça parce que ça fait 22 ans qu'elle incarne l'émission ? Vous voyez, si c'était une autre musique qui incarnait l'émission, vous diriez peut-être la même chose.
Au bout de 20 ans, vous auriez peut-être changé. On va la remettre, la musique. En fait, ça permet quand même
une dramaturgie. Il y a une dramaturgie dans cette musique.
Pardon ?
Il y a une dramaturgie, parce qu'à la fin, tac, ça s'arrête.
Ouais, c'est vrai.
Il y a quand même une montée. Alors, comment justement vous l'avez choisi ? C'est-à-dire que c'est peut-être qu'au bout de 20 ans, on se dit ça.
C'est Coca-Média. Ça s'appelle comme ça.
Je vais vous décevoir beaucoup, mais j'en ai aucun souvenir. Je ne sais même plus si c'est moi ou si c'est mon producteur de l'époque qui l'avait choisi. C'est pas mon grand domaine de spécialité, le choix des génériques. J'ajoute que c'est pas mon étrangement c'est pas mon générique préféré. Mon générique préféré de la radio-télévision française, c'est le formidable générique de Radioscopie de Jacques Chancel, qui je trouve n'a jamais été dépassé dans l'élégance, dans la beauté, dans l'invitation au rêve.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Deux petites questions et une remarque. La première question, c'est vos lectures au-delà de livres de sciences humaines ou sciences politiques, quels sont vos auteurs préférés ?
Voilà, mais c'est perso, ça.
Ouais.
Ouais. Et deuxième question, votre site, mais d'autres sites qui ont vu le jour récemment, je pense à AOC ou Les Jours, si vous n'avez pas les abonnements institutionnel, c'est-à-dire les abonnements du milieu professionnel, des journalistes, des bibliothèques, des ministères, des agences d'État. Si vous n'avez pas ces abonnements-là, est-ce que vous pourriez vivre ?
Alors, je vous réponds tout de suite, on n'en a quasiment aucun. On a quelques abonnements de médiathèques, mais d'institutions locales de ce genre-là, mais on n'a aucun abonnement institutionnel, on n'a aucun ministère abonné. J'aimerais bien, hein. Enfin, je veux dire, s'il y a des ministres dans la salle et s'ils veulent qu'on discute après, J'ai absolument aucune objection à abonner des ministres ou des ministères, mais il se trouve qu'on n'en a pas.
C'est pas
je crois que Matignon est abonné. Mais alors ces chiens, ils n'ont pris que l'abonnement simple à 45 euros. Je pense même pas qu'ils aient souscrit à l'abonnement collectif. Et je pense que donc ils se refilent les codes. Faudrait qu'on fasse l'enquête d'ailleurs pour être certain. Donc on n'en a pas. Sur la première partie de votre question.
C'était quoi ?
Qu'est-ce que je lis ?
Ah oui, les livres.
Alors ça, c'est intéressant. Parce que de la même manière que je me suis installé dans une posture de doute critique par rapport aux médias, je me rends compte que je me suis aussi installé malgré moi dans une posture de doute critique par rapport aux prescriptions médiatiques de lecture ou de cinéma ou de musique ou de consommation culturelle au sens large, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, je ne lis jamais les romans de la rentrée, par exemple. Je vais très rarement voir des films au moment de leur sortie en salle. Je ne fais aucune confiance aux critiques de la presse française, pour tout dire. Ayant observé de près comment les critiques, alors ça vaut aussi bien pour les critiques de cinéma, les critiques de théâtre, les critiques de ou les critiques littéraires, ayant observé de près finalement le phénomène des réseaux et de copinage, je leur fais absolument aucune confiance. Donc, je me laisse guider par des impulsions. Et on va dire des prescriptions involontaires. Je vais vous raconter la dernière parce qu'elle est drôle. J'étais en train de lire un papier sur la France insoumise et sur l'entourage de Mélenchon. Et c'était un papier qui racontait plein d'anecdotes. Et ce papier racontait notamment qu'il y a un livre culte dans l'entourage de Mélenchon, que si vous ne l'avez pas lu, ce n'est même pas la peine de parler à Mélenchon. C'est la biographie de Louis XI par Murray Kendall. Je ne sais pourquoi cette biographie est le livre culte dont j'ai été fasciné d'apprendre ça. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis précipité sur la biographie de Louis XI par Murray Kendall, que je viens de terminer là, qui est un livre qu'on peut absolument recommander parce que c'est une très très bonne biographie d'un personnage absolument fascinant. Et donc, là, pour l'instant, je suis dans une phase d'approfondissement de ce champ très particulier et je suis plongé dans les mémoires de Comines. Comines qui était donc, comme chacun sait ici, puisque nous sommes à Beaubourg, Comines qui était donc le mémorialiste de Louis XI, son conseiller, son Jacques Attali, son âme damnée, son homme d'affaires, et qui ensuite, après la mort du roi, a publié dans ses mémoires qui sont d'une modernité absolument et d'une perspicacité psychologique absolument. Voilà ce que je lis. Je lis Louis XI. Alors, quand je dis que je lis pas les nouveautés de la rentrée, si, ça m'arrive quand même. Par exemple, je suis aussi plongé en ce moment dans une nouveauté qui est un essai qui est paru au Seuil, qui s'appelle « Notre désir » par une Allemande qui s'appelle Caroline Emke. Je vois que ça fait écho dans la salle. Et donc, qui est un très très beau texte, un texte un peu, si vous voulez, un texte entre les catégories, on va dire. C'est ni tout à fait un reportage, ni tout à fait de l'autofiction, ni tout à fait une enquête, ni tout à fait un essai, mais un peu de tout ça sur les incertitudes et les fluctuations des désirs sexuels.
Et à quel moment, du coup, tu lis ? Entre les tweets, le soir, le matin très tôt, avant de regarder les émissions en replay ?
Le week-end. Non, on trouve toujours des moments pour lire. Okay.
Okay. Et si vous me permettez, j'avais une remarque. C'est parce que vous avez prononcé le nom du président des États-Unis. Moi, je suis assez surpris autour de moi de constater que celle qui était en face de lui, la candidate, elle est complètement dédouanée. On ne parle, c'est un monstre, un diable, on ne parle que de ce monsieur-là. On oublie de parler de Madame Clinton. Voilà.
Le milieu populaire
ne s'est pas déplacé pour voter pour une milliardaire.
Je vais défendre mes confrères pour une fois, mais bon, il y en a un qui est à la Maison Blanche et pas l'autre. Donc, voilà.
Merci pour ces questions et ces remarques. On va prendre une dernière question et puis après, on pourra conclure. J'en profite pour remercier les équipes techniques également. Donc la dernière question, c'est pas.
Okay. Non, mais ça peut être rapide parce que vous y avez déjà plus ou moins répondu. Et puis, mais enfin, pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi okay. n'avons-nous pas, est-ce que dans quelques années, on ne dira pas, pourquoi n'avons-nous pas écouté ceux qui savaient parce qu'ils agissaient autrement? Alors, c'est pour ça que
vous
j'ai envie...
Vous pensez à quel sujet?
Il y a des êtres en ce moment qui agissent peut-être différemment par rapport à l'information. Enfin, j'en fais un peu partie, mais la dame aussi disait qu'elle réagissait. Enfin, moi, j'utilise que la radio. Je n'ai jamais regardé votre émission. Je n'ai pas de télévision et je n'ai pas de téléphone. Donc, bon. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'aime rencontrer des gens tous les jours. Et donc, j'apprends des choses en vous rencontrant, vous, mais aussi en discutant avec une personne dehors qui est couchée par terre. Enfin, j'apprends des choses et j'en suis absolument ravie. Et donc, je pense que je ne suis pas la seule. Et donc, on dira peut-être dans quelques années, pourquoi n'avons-nous pas écouté ceux qui savaient ce que nous ne voulions pas entendre?
Oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on se dira ça. Je pense que tout groupe humain, toute époque, a ses points aveugles. Là, on est dans une bulle formidable de points aveugles, mais on est aussi aujourd'hui tout surinformé que nous soyons, tout addict à Twitter que nous soyons, nous avons nos points aveugles comme les autres époques. Et ce qui est angoissant, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Alors, il y en a certains qu'on peut à peu près arriver à identifier. Je veux dire, la catastrophe climatique, enfin, on ne peut pas dire que ce soit un point aveugle. C'est plus compliqué. On est plutôt dans un phénomène de déni, là. Mais non, bien sûr qu'on a nos points aveugles. Bien sûr.
Mais du coup, vous n'utilisez même pas Internet ou...
J'ai un petit peu en bibliothèque.
D'accord.
Justement, par rapport à la radio, ça m'énerve quand on me dit, voilà, les podcasts, vous pouvez l'écouter sur podcast. Non, moi, j'ai envie d'écouter l'émission quand même quand elle est proposée, à l'heure où elle est proposée. Ouais. Je suis souvent choquée quand on ne me dit même pas qu'elle va être l'invitée parce que, soi-disant, les gens le savent déjà, quoi. Ça me choque un peu.
Non, ça, on n'en est pas là. Mais en revanche, une grande partie de la production audio, maintenant, n'est plus sur les antennes. Elle est sur les podcasts, donc elle est que disponible, ou même de la production vidéo, quoi. Elle est aussi disponible.
Mais c'est drôle ce que dit madame sur le... Moi, je veux voir... Je veux écouter en direct. Je veux pas de podcast. Alors, on va peut-être terminer par là. Quand on a été viré de la télé, donc on a commencé à faire l'émission sur Internet, j'ai rencontré plein de gens dans la rue, dans les trains, etc., qui me disaient « Mais oh, quel dommage que vous ne soyez plus à la télé, c'était tellement bien, je regardais tous les dimanches, c'était un rite, etc. » Et je disais « Mais vous savez que là, maintenant, c'est encore mieux. On fait la même émission et vous pouvez la regarder quand vous voulez. Le lendemain, le surlendemain, le mois d'après, quand vous voulez. » « Ah ouais, mais en fait, je n'ai pas le temps. » Alors là, vous avez l'impression d'être dans un sketch de Raymond Devos. Alors, attends... Vous êtes en train de me dire que là, vous n'avez pas le temps, alors que vous avez toute la liberté de la regarder quand vous vouliez, alors que quand vous étiez obligé de la regarder le dimanche à 12h35, là, vous trouviez le temps. Bah, faites pareil, continuez à la regarder le dimanche à 12h35, vous pouvez. Ah oui, mais ce n'est pas pareil. Donc là,
il y a un côté communion quand même
là,
dans la télé en
je me
direct.
Dis que là, j'ai vraiment touché à un point obscur de la psychologie humaine qui, au fond, n'est peut-être pas si obscur que ça, parce que, comme tu dis, il y a un côté communion, il y a un côté rendez-vous fédérateur. C'est-à-dire que non seulement j'ai envie de voir ce programme, mais j'ai envie de le voir au moment où je sais que des centaines de milliers d'autres camarades le regardent aussi.
Et le choix, c'est angoissant. Quoi.
Et le choix est angoissant.
Est-ce que
ça peut être le mot de la fin.
Ouais, ok. c'est de moi, là, du coup. Ouais. Peut-être que toi, tu as un mot de la fin. Non.
Bon, sinon, merci de votre attention.
Merci d'être venu. Oui, merci à notre invité. Est-ce qu'il y a des annonces à faire ou des éléments ?
Du coup, c'est moi qui aurai le mot de la fin. Pour déjà remercier chaleureusement nos intervenants de ce soir pour ce débat passionnant. Et puis aussi vous remercier d'être venu. Et vous dire également que mercredi soir à 18h à la bibliothèque, à l'Espace Presse, nous recevrons Camille Polony, qui est une journaliste d'investigation qui travaille pour Les Jours, qui est spécialisée en police-justice. Et donc on clôt en beauté comme ça ce cycle qui se terminera en novembre avec donc un deuxième rendez-vous, puis un troisième en novembre. Et je vous souhaite une excellente soirée.